Apocalypse. Et nous sommes aujourd'hui dans la section où Jésus se décrit. C'est comme ça que j'ai donné comme titre, Jésus se décrit. Si on vous demandait, on vous donnait un papier, on vous disait, allez, vous avez 2 minutes pour vous décrire. Qu'est-ce qu'on mettrait chacun? Nous allons voir ce que Jésus dit de lui-même. Mais d'abord, avant d'arriver, regardez le verset 10. Parce que Jean nous dit d'abord ce qu'il entend. Il dit, Apocalypse 1, verset 10, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Une voix qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Il entend donc d'abord une voix qui lui dit d'écrire ce qu'il voit. Et il nous dit donc, après ce qu'il voit, regardez verset 12, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, quoi ? Je vis. » Donc il entend, et puis il voit. Mais voici le problème. Regardez le verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors comment pourra-t-il écrire ce qu'il voit quand ce qu'il voit le laisse comme mort? C'est un problème. Et donc, il y a ici un troisième sens engagé. Donc, il a entendu, c'est les oreilles, n'est-ce pas? Il a vu, c'est les yeux. Et le troisième sens, c'est le toucher. Après avoir entendu et vu, maintenant, il ressent. Il faut savoir que Jean, ici, agit dans son rôle d'apôtre. Et ce n'est pas donné à nous de voir Jésus, ni d'entendre Jésus parler. Ces choses leur sont données pour qu'ils nous les rapportent. En fait, regardez 1 Jean, vous n'êtes pas très loin. Donc, regardez 1 Jean, chapitre 1. Donc, Apocalypse a été écrit par Jean, et 1 Jean a été écrit par Jean, la même personne. Vous êtes intelligent. 1 Jean, chapitre 1. Verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons, quoi ? Entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et troisièmement, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifesté. Il parle de Jésus qui devient homme ici, l'incarnation. La vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et maintenant, notez leur rôle envers nous. Nous, c'est les apôtres. Et qu'est-ce qu'ils font pour nous? Et nous, lui, parle de Jésus, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Revenons donc maintenant en Apocalypse. Et on va se rappeler du fait qu'il a eu l'expérience de Jésus-Christ incarné. D'accord ? Il a vu, il a entendu et il a même touché. Et maintenant, la même personne a une expérience du Christ. Mais qu'est-ce qui est différent maintenant avec Christ? Ce n'est pas simplement le Christ incarné. Maintenant, c'est le Christ. C'est le Christ, oui, ressuscité et élevé et glorifié. Et il va l'entendre, il va le voir et il va le toucher. Bon, en l'occurrence, il va être touché, en fait, par lui. Alors, la première chose que je veux regarder, c'est ce que j'appelle le toucher fortifiant. Le toucher fortifiant. Ayant vu et entendu le Christ glorifié, il est rempli d'effroi. Il tombe comme mort. Il a toujours ses sens, il entend, mais il est par terre, il est terrassé littéralement. Mais être à son contact le rassure. Lisons le verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. Réfléchissons à ce toucher, ce contact qu'il a eu avec le Christ physique. Nous lisons dans les évangiles comment Jésus a touché un lépreux, c'est en Matthieu 8, verset 3, ou comment il a touché des aveugles, Matthieu 20, verset 34. Et vous vous rappelez certainement que dans la vie de Jésus, personne n'avait peur de lui toucher. On lit même des mères qui, selon Marc 10, 13, amenaient leurs enfants, et la Bible dit, pour qu'ils les touchent. Ainsi, Mélodie amène Matthieu pour que quelqu'un le touche. Il a peur quand je le touche. Mais ça veut dire que les gens n'avaient pas peur. Je ne pense pas que Matthieu aurait peur que Jésus le touche. Pensez à cette femme qui, selon Marc 5, 28, se disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Et quelle grâce ici pour Jean d'être reçu par le Seigneur, mais le Seigneur de gloire, de cette façon. Sa gloire l'éblouit, sa majesté, sa sainteté le terrasse. Et imaginez que Jésus serait resté debout, figé sur place, en attendant que Jean s'approche de lui. Jean est sans force, il ne peut même pas bouger, il est par terre. Il n'a même pas la force de lever la tête et émettre un cri au secours. Imaginez que Jésus serait resté là, en attendant. Mais Jésus vient vers lui. Cet homme décrit quelques versets auparavant comme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, se penche vers lui. Ce personnage aux yeux comme une flamme de feu, aux pieds comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, avec une voix comme de bruit de grandes eaux, se baisse devant le corps immobile de Jean, s'accroupit et pose sur lui sa main droite en lui disant « Ne crains point ». C'est une grâce, une grâce. Mais je crois que dans tout cela, il y a un écho spécifique du passé. Parfois, avec les gens qu'on a connus dans le passé, ils reviennent, il y a des choses qu'on... Tous les deux, on se rappelle, et parfois c'est une blague, ou il y a une phrase qu'on a utilisée, et on se rappelle tous les deux, et ça revient, et ça renoue la relation. Si vous lisez en Matthieu 17, vous n'avez pas besoin de chercher, je vais vous le lire. Mais en Matthieu 17, il y a Pierre, Jacques et Jean. Donc Jean, dont nous lisons ici. Et ils montent sur une montagne. Et là, ils vont voir quoi? Ils vont voir Jésus-Christ qui est transfiguré. Ils vont voir sa gloire. En fait, c'est un avant-goût de ce qui se passe ici maintenant. Jésus, quand il était sur terre, avait sa gloire cachée. Sa gloire était voilée. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance, et on le dédaignait, on faisait de lui aucun cas. Mais là, sur la montagne, il voit qu'il est vraiment, c'est sa gloire qui resplendit. La gloire que Jean voit ici, et ils sont éblouis, ils sont terrassés aussi. Et la Bible dit que lorsqu'ils entendirent cette voix, donc Dieu le Père leur parle, et ils tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » C'est presque exactement la même chose qui se refait. Et Jean a dû certainement se rappeler de cet instant. Donc il y a ce toucher fortifiant qui va permettre qu'il se lève, qu'il puisse écrire plus tard et raconter ce qu'il voit. Mais après ça, il y a une parole rassurante. Donc il n'y a pas seulement ce toucher fortifiant, il y a deuxièmement une parole rassurante. Qu'est-ce qu'il lui dit? Verset 17. Il posa sur moi sa main droite en disant quoi? Ne crains point. C'est exactement ce qu'il a dit sur la montagne sainte. En fait, on retrouve Jésus en disant ça plusieurs fois. Sur la mer de Galilée, lors d'une tempête, en Matthieu 14, verset 27, Jésus leur dit aussitôt, au milieu de la tempête, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Paul a entendu ceci lors d'un voyage missionnaire. Il était à Corinthe et en Actes 18, verset 9, la Bible nous dit que le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point. » Plus tard, lorsqu'il est en prison, en acte 23, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage. » À des disciples soucieux pour leur avenir, Jésus a dit en Matthieu 10, 31, « Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Un père, anxieux pour la santé de sa fille, on vient de lui dire qu'elle est morte, il dit, Marc 5, 36, « Ne crains pas. » C'est quoi les deux mots qui suivent? Crois seulement. Crois seulement. À des hommes et à des femmes préoccupés par leurs besoins matériels, Jésus a dit, Luc 12, 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Donc la façon que Jean est reçu nous donne beaucoup de confiance, beaucoup d'espoir. Parce que si vous regardez au verset 9 du même chapitre, Apocalypse 1, Jean nous dit, « Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, et notez ceci, j'ai part aussi avec vous au royaume. » Au royaume. Il dit, « Moi, je suis votre frère et j'ai part avec vous au royaume. » Il s'identifie comme notre frère, il nous rassure que nous avons part avec lui au royaume. Et nous pouvons donc être rassurés que la façon dont le roi de ce royaume reçoit Jean, il recevra aussi les frères et les sœurs de Jean. C'est-à-dire, nous serons reçus de la même façon. Nous n'avons pas besoin d'avoir cette crainte, il y a une crainte de Dieu qui est bon, mais d'être terrassé de peur, parce que quand nous le verrons, ce sera différent que Jean. Jean le voit dans sa chair, dans sa faiblesse, mais lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui. Nous serons déjà glorifiés. Et pour nous, ce sera une expérience vraiment merveilleuse. Aucun ombre de peur, nous serons glorifiés. Donc il y a le toucher, il y a la voix qui lui parle, et puis il y a une nouvelle, j'appelle ça une nouvelle réjouissante, que Dieu lui donne, que Jésus lui donne, parce que quand Jésus dit « ne crains point », ce n'est pas un commandement sans fondation, ce n'est pas comme s'il dit « ne crains pas ». Ou comme un ami, vous avez peut-être eu l'expérience, peut-être vous avez dit vous-même « tout ira mieux ». Quand en fait, on ne sait pas si tout ira mieux. Et on ne sait pas pourquoi on dit ça, on veut juste dire quelque chose. On ne parle pas ici du simple pouvoir de la pensée positive. C'est un peu analogue à ce qu'ont dit les anges aux bergers. Vous vous rappelez de ça? Ce qu'ont dit les anges, Gabriel, puisque c'est un nom d'un ange. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et ils furent quoi? Ça c'est les bergers. Exactement, saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle. Voilà, vous voyez, là, ne crains pas, ne crains point, pourquoi? Il y a une bonne nouvelle derrière. Il y a une fondation ou un fondement pour le fait de ne pas croire. Notre confiance est toujours basée sur des faits en tant que chrétien. Des faits. Nous pouvons être, vous savez, on peut être très négatif par nature et très positif par rapport à l'avenir. Parce que ce n'est pas une question de la nature. Notre disposition peut jouer sur nos émotions, ça arrive. Mais c'est la bonne nouvelle révélée par Dieu qui est le fondement de notre foi. Donc, quelle est cette nouvelle que Jésus lui donne? Pourquoi il lui dit de ne pas craindre? Et pourquoi il nous dit de ne pas craindre aussi? Regardez-le. Je reprends au verset 17. Apocalypse 1, 17. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite. Il posa sur moi sa main droite. » Donc déjà, il y a ce toucher qui est réconfortant. En disant, ne crains point, et puis continue, regardez le verset 18. « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Si ces paroles sont vraies, elles changent votre vie, elles changent votre éternité, et elles vous donnent la joie. Et elles enlèvent la crainte. Alors, quel est d'abord le sujet de cette bonne nouvelle ? Je vais le relire, verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je vis, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, quand on parle d'une bonne nouvelle, quel est le sujet de cette bonne nouvelle? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est comme si Jésus lui dit, ne crains pas, je vais te rappeler qui je suis, ce que j'ai fait, l'avenir qui m'attend, et l'autorité que j'ai. Donc la bonne nouvelle ne consiste pas à vous parler de moi, heureusement pour vous, mais ni à vous parler de vous. Elle consiste à vous parler de Jésus-Christ et à vous de parler aux autres de Jésus-Christ. Et il faut éviter donc de tomber dans le piège de faire de l'Évangile une nouvelle qui vous place au centre ou qui place la personne au centre. Ça peut arriver parfois. La bonne nouvelle concerne en premier lieu Jésus-Christ. Que je l'accepte en fait ou que je le rejette, elle demeure une bonne nouvelle. Et elle me concerne lorsque je suis en relation avec Jésus. Vous voyez, on apprend qu'il est vraiment la bonne nouvelle. Ça le garde au centre et ça me concerne quand je suis en relation avec lui. Quand il est à moi et je suis à lui. Donc le sujet, c'est Jésus-Christ. Et quelle donc est la substance de cette bonne nouvelle ? Regardez d'abord juste cette première phrase où il dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant ». Vous pouvez mémoriser ça pendant quelques minutes ? Je suis le premier et le dernier. Ok, avec cela, trouvez avec moi Ésaïe 48. On va regarder deux versets en Ésaïe. Ésaïe 48 dans vos Bibles. Alors, Jésus a dit, je suis quoi? Le premier et le dernier. Très bien. Ésaïe 48, verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi. Moi qui suis quoi? Le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Alors ça, c'est le Dieu d'Israël qui parle ici, c'est Yahvé, c'est l'Éternel. Et le fait que Dieu soit premier et dernier est associé à quel pouvoir ici? Il dit, c'est moi qui suis le premier, c'est moi aussi qui suis le dernier. Ma main a quoi? Fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Donc, il associe le fait qu'il soit le premier et le dernier au fait qu'il soit quoi? Créateur. Très bien, créateur. Ok, maintenant trouvez Ésaïe 44, quelques chapitres auparavant. Verset 6. Ésaïe 44, versets 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, donc ça c'est le nom pour Yahvé, ou l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis quoi ? Le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc ça parle de sa divinité ici. Verset 7. Qui comme moi fait quoi ? Des prédictions. Qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. C'est un défi. Allez-y, je vous écoute. Dites-moi ce qui va se passer demain, même. Verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te lâche pas dès longtemps, quoi ? Annoncer et déclarer ? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi ? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Donc le fait que Dieu soit le premier et le dernier est associé ici avec quoi ? Pas sa création, mais avec le fait qu'il fait quoi ? Vous l'avez vu ? On va reprendre là. Verset 7, juste après avoir dit verset 6, je suis le premier, je suis le dernier, or moi il n'y a point de Dieu, qui comme moi fait des prédictions ? Qui annonce longtemps avant et de le déclare. Donc, il ne parle pas ici de sa puissance créatrice, le fait qu'il est créateur, mais le fait qu'il peut révéler l'avenir. Dieu a créé l'univers et Dieu annonce l'avenir. Il est le premier et le dernier. Il est le créateur et il décide de l'avenir. Il a décidé le début et il a décidé la fin. Au commencement, en Genèse, Dieu créa les cieux et la terre. Et à la fin, Apocalypse, Dieu encore amène tout à sa conclusion. Il est le premier et le dernier. Alors pour revenir en Apocalypse, quelles sont donc les implications que Jésus-Christ suggère en appliquant cette description que le prophète Ésaïe a utilisée de l'Éternel à lui-même. Quelle est l'implication ici ? Qu'il est Dieu. Il est lui-même le premier et le dernier. Celui qui a créé et celui qui va révéler. Et d'ailleurs, le premier mot Apocalypse, c'est ce mot pour révélation. La révélation de Jésus-Christ. Donc avant de voir les détails, peut-être une autre fois, je vais dire ici, la substance de la bonne nouvelle est ceci. Jésus-Christ est le Dieu éternel. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Jésus-Christ est le Dieu éternel, ou si vous préférez, Jésus-Christ est l'éternel Dieu. Il est l'éternel Dieu. Alors, pour terminer, revenons à notre texte et regardez quelque chose que je trouve très beau, en parlant de la divinité de Jésus-Christ. Revenez au verset 4. Alors, il faut faire un petit exercice avec moi, donc bien réfléchir. On a déjà vu ces versets, donc ça va être facile pour vous, je crois. Jean, verset 4. « Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. » C'est qui ça ? Ok, j'ai Jésus. Je vais vous donner trois options. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit. Oui, on va continuer. Parce que juste après, il dit « Et de la part des sept esprits qui sont devant son trône ». Figure du style qui parle de quel membre de la Trinité ? Le Saint-Esprit. Et regardez le verset 5. Et de la part de qui ? De Jésus-Christ. Okay, donc on recommence au verset 4. Quand il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, cela décrit donc Dieu le Père, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, Dieu le Saint-Esprit, et de la part de Jésus-Christ, bon, c'est Dieu le Fils. Et nous avons, oui, la Trinité ici. Mais le Père est décrit comme celui qui est, qui était et qui vient. Gardez ça à l'esprit. Et regardez verset 7. Voici, notez le pronom ici. Il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc, clairement, ça parle de qui ? De Jésus, oui. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Notez le pronom ici. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Maintenant, ma question. Qui parle au verset 8 ? Ok, on a quelqu'un qui dit le Père. Il veut toutes les options, lui, Joseph. Pardon ? Ok, elle prend un peu le côté là de Joseph. C'est bien. C'est Jésus. Ok, il y a encore une troisième option, quelqu'un que... Vous savez, les commentateurs n'en sont pas d'accord. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous focalisez sur la deuxième partie de la phrase, celui qui est, qui était et qui vient, cela vous fait penser au verset 4. Hein? L'exacte, en fait, reproduction de ces mots au verset 4, qui parle de Dieu le Père et qui dit celui qui est, qui était, qui vient. Donc ils vont dire que ça parle de Dieu le Père. Surtout parce qu'en parlant de Jésus-Christ au verset 7, c'est dans la troisième personne, il vient. Mais si vous focalisez sur la première partie de la phrase, je suis l'alpha et l'oméga, et l'alpha, on va se rappeler, l'alpha c'est quoi ? C'est la première lettre de l'alphabet, et oméga c'est donc la dernière lettre. Cela vous fait penser au verset 18 qui dit, je suis le premier et le dernier. Et le verset 18 parle clairement de qui ? De Jésus-Christ. Hein, parce qu'il dit, j'étais mort et je suis vivant. Et le verset 8 identifie le personnage qui parle comme étant qui ? Il dit au verset 8, dit le Seigneur Dieu. Et ce sont des titres qui peuvent être appliqués au Père comme au Fils. En fait, on les trouve dans... J'ai cherché ces deux mots, Seigneur et Dieu, dans le même verset. Je peux faire ça facilement sur mon logiciel. Et ces deux, ils arrivent dans 116 versets différents. Et la plupart, en regardant rapidement, c'est pour distinguer le Père du Fils. Par exemple, Dieu, notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ. Clairement deux. Ou Jacques qui commence en disant Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Souvent, c'est utilisé pour distinguer les deux. Mais une des fois qu'on les trouve ensemble pour parler de la même personne, c'est quand Thomas voit Jésus et il s'écrit mon Seigneur et mon Dieu. Et ce sont ces mots exacts, ces deux mots. Mon Seigneur et mon Dieu. Et ici, ils sont unis dans la même personne. Donc, vous pouvez faire votre choix. Hein. Même si c'est le Père qui parle, et c'est plutôt ma compréhension, il faut dire ceci, il est dit du Père ce qui va être dit plus tard du Fils. Et si c'est le Fils qui parle, il est dit de lui ce qui avait déjà été dit du Père. Donc c'est une belle confusion, je veux dire. Une fusion, en fait, de ces personnages. Parce qu'ils sont trois personnes, mais ils sont aussi un seul Dieu. Et donc nous voyons, de notre point de vue, ce flou, mais parce que c'est divin, c'est quelque chose de divin. Un seul Dieu en trois personnes. Mais la conclusion reste la même, la substance de la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est le Dieu éternelle. Et il vient vers nous, il vient vers Jean dans son péché, dans sa faiblesse. Jean ne peut plus rien faire pour lui-même. Il a vu la gloire de Dieu et ça l'a terrassé. Et dans sa grâce, il se penche vers lui, il met sa main droite, qui est la main de l'amitié, hein, la main de la communion. Paul va parler de ça en Galates. Et il met cette main sur Jean et il dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Le Dieu qu'a connu Ésaïe, celui qui a commencé l'histoire en Genèse et maintenant celui qui va te révéler la fin de l'histoire. Ça, c'est aussi notre Dieu. Qu'on soit vraiment poussé à le louer. Prions. Ô notre Père, nous voulons te dire, et ô Christ, notre Seigneur, nous voulons te dire, et au Saint-Esprit, nous voulons te dire, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ce si grand salut que tu as non seulement pourvu de loin, mais que tu nous as apporté de près dans ta grâce et dans ton amour. Et nous prions que nos cœurs soient touchés ce soir par un amour pour toi et que cela nous pousse à nous donner tout entièrement à toi. Que tu sois loué dès maintenant et au siècle des siècles. Amen.